Donc en général, on me dit que je parle pas assez fort. Donc on va d'abord tester le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Très bien. Je vous remercie d'être venus si nombreux et je remercie Françoise de me permettre de vous parler des ondes gravitationnelles, qui est un sujet qui me passionne depuis déjà pas mal d'années. Les ondes gravitationnelles ont été prédites il y a exactement 100 ans par Albert Einstein. Comme l'a dit Françoise, elles sont sur le point d'être détectées d'ici quelques peut-être semaines, mois ou années, on ne sait pas. Alors avant d'en arriver là, je voudrais revenir pas mal en arrière avec cette image de Galilée qui observe le ciel avec sa fameuse lunette. En fait, cette lunette était une lunette néerlandaise, hollandaise, qui a été inventée pour l'observation terrestre. Mais c'est bien Galilée qui, le premier, a eu l'idée d'en faire un instrument astronomique. Donc, quand il a pointé son télescope vers le ciel, il a découvert les lunes de Jupiter. Et après plusieurs soirées d'observation et plusieurs journées de réflexion, il est arrivé à la conclusion que ces lunes tournaient autour de la planète. Et il a réussi à se convaincre, lui d'abord, mais aussi un grand nombre de ses contemporains, que notre vision, que la vision de l'époque de la Terre au centre du monde était complètement fausse. Depuis, l'astronomie a beaucoup évolué. Les astronomes ont d'abord développé des télescopes qui ont permis de voir de plus en plus loin et de plus en plus précis. Voici par exemple le télescope Hubble. Donc on est passé d'une image floue de Jupiter aux images magnifiques qu'on reçoit maintenant. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, d'autres fenêtres se sont ouvertes dans d'autres longueurs d'onde. Donc dans l'infrarouge, on a observé dans l'infrarouge, dans les rayons X, dans l'ultraviolet aussi, dans les rayons gamma, et micro-ondes et jusqu'aux ondes radio. Et à chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, non seulement on a pu améliorer ce que l'on apprendre plus de choses sur les objets que l'on connaissait déjà, mais on a aussi découvert des objets dont on n'aurait même pas imaginé l'existence. Donc l'univers de Galilée était un univers très stable, très prévisible. Les étoiles étaient toujours au même endroit, elles n'avaient pas l'air d'évoluer. Régulièrement, les planètes revenaient à la même place. Et l'univers que l'on connaît actuellement est très différent. C'est un univers en perpétuelle évolution. Il y a des étoiles qui naissent. On peut observer des pouponnières d'étoiles. Les étoiles meurent dans des explosions, comme les supernovas. Et c'est aussi un univers violent. Donc avec ce genre d'explosion, avec des galaxies qui fusionnent, des étoiles qui accrètent de la matière d'autres étoiles et des événements qu'on appelle cataclysmiques, comme les sursauts gamma, par exemple. Donc, tout ce que l'on sait de l'univers actuellement nous est donné par les ondes électromagnétiques. Et l'univers que l'on peut observer représente une très faible fraction de son contenu total. La matière que l'on observe est beaucoup moins importante que la matière noire. Et il y a aussi, on l'estime à 70%, une énergie noire qui serait responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Et pour l'instant, on n'a aucune idée de ce que cela peut être. Nous avons aussi un mur observationnel à 300 000 ans après le Big Bang. Donc au début, en tout cas selon les théories actuelles, il y a eu une explosion, l'univers était extrêmement concentré, une période d'inflation. Et tant que l'univers était encore... comment est-ce que je peux expliquer? Excusez-moi. Jusqu'à 300 000 ans après le Big Bang, l'univers n'était pas assez dilué et le rayonnement électromagnétique ne pouvait pas s'échapper. Comme par exemple, on ne peut pas voir à l'intérieur des étoiles. Donc toute cette période nous est pour l'instant cachée aux ondes électromagnétiques. Mais aujourd'hui, une nouvelle fenêtre est en train de s'ouvrir et c'est la fenêtre des ondes gravitationnelles dont je vais vous parler maintenant. Cette fenêtre est pour l'instant complètement inexplorée, même si on a des idées, des sources que l'on pourra voir. Mais on s'attend aussi à détecter des choses que l'on ne connaît absolument pas. Donc dans ondes gravitationnelles, il y a gravitation. Donc je vais revenir, mais je vous rassure très brièvement sur les théories de la gravitation. Donc pour Newton, la gravitation est une force d'attraction qui s'exerce entre deux étoiles, par exemple, entre une planète et une étoile. Et c'est une force qui s'exerce à distance et de façon instantanée. Donc ça, c'est très important, de façon instantanée. C'est-à-dire que, par exemple, si le Soleil disparaissait maintenant, on ne verrait plus sa lumière au bout de 8 minutes, parce que la lumière, on sait que la lumière met 8 minutes à arriver. Et par contre, selon la théorie de Newton, la Terre commencerait à dévier de sa trajectoire elliptique autour du Soleil instantanément. Et donc cette théorie explique pourquoi les pommes tombent des arbres et aussi pourquoi les planètes tournent autour du Soleil. Pour Einstein, c'est complètement différent. La gravitation est une propriété géométrique de l'espace-temps. Donc l'équation de Newton relie la métrique, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps, à son contenu matériel et énergétique, qui est le membre de droite. Donc cette équation peut être résumée de façon simple avec cette fameuse phrase de John Wheeler qui dit que les masses indiquent à l'espace-temps comment il doit se courber et en retour, les masses indiquent à l'espace-temps, pardon, indique aux masses comment elles doivent se déplacer. Donc c'est très, comme l'a dit François, c'est très difficile de se représenter l'espace-temps à quatre dimensions. Mais on peut encore une fois en avoir une image simple en imaginant un tissu à deux dimensions. Donc une masse comme le Soleil, par exemple, en jaune, crée un puits dans l'espace-temps. Et les planètes, le Soleil, la Terre par exemple, a son mouvement contraint et est obligée de tourner dans ce puits comme le ferait une bille sur une roulette. Donc évidemment, c'est une image simple, mais ça permet de bien fixer les idées. Donc dans cette théorie, les planètes ne sont pas attirées par le Soleil par une force mystérieuse, comme avec la théorie de Newton, mais se déplace dans l'espace courbé par la masse du Soleil. Les ondes gravitationnelles sont une conséquence de cette théorie. Ce sont des perturbations de l'espace-temps, l'espace-temps est dynamique, qui se propagent à la vitesse de la lumière. Elles sont créées quand une masse est accélérée ou change sa configuration, c'est-à-dire quand le champ gravitationnel est modifié. Ces ondes gravitationnelles sont en fait l'information que ce champ a été modifié qui se propage vers l'extérieur. Pour avoir une image simple, vous pouvez imaginer un projectile qu'on lance sur un lac et qui va créer de petites vaguelettes qui vont arriver vers les rives. Une propriété de ces ondes qui est extrêmement importante, c'est qu'elles ne sont ni stoppées ni déviées par la matière. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir l'intérieur des étoiles à neutrons, des trous noirs par exemple, et on va pouvoir observer les premiers instants de l'univers au-delà de ce mur observationnel à 300 000 ans que l'on a avec les ondes électromagnétiques. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, comme elles interagissent très peu, elles vont être extrêmement difficiles à détecter. Donc, comme je l'ai dit, voilà, elles permettent de voir l'intérieur, toutes les zones sombres en fait, de l'univers auxquelles on n'a pas accès actuellement. Et elles vont aussi apporter des informations complémentaires aux ondes électromagnétiques. Ce serait un peu comme si on avait vu jusque-là et que maintenant on allait pouvoir entendre. Donc, quels sont les effets des ondes gravitationnelles? Donc, je pense que Françoise a déjà montré cette petite animation. Les ondes gravitationnelles modifient la structure de l'espace-temps et selon deux polarisations, qui sont la polarisation plus et la polarisation moins. Donc ici on a une onde gravitationnelle qui se propage dans cette direction et l'espace s'allonge ou se rétrécit dans des directions perpendiculaires. Donc si on se fixe à un endroit, par exemple, en alternance, on va voir les distances s'allonger ou se rétrécir selon une longueur. Donc une onde gravitationnelle qui passe entre deux masses va modifier la distance qui sépare ces deux masses. Et les effets sur Terre sont extrêmement faibles, puisque même si une onde gravitationnelle porte beaucoup d'énergie, son amplitude va être faible. Et Françoise a donné cet exemple d'une source à 10 mégaparsecs. Donc, on peut imaginer par exemple une supernova dans l'amas de Virgo, par exemple. Ça va être de l'ordre de 10 puissance moins 21, sachant que la taille du proton est plus grande que ça. Alors, je vais vous remontrer ça quand même. Donc ici, on a placé des masses sur un cercle. L'onde gravitationnelle arrive perpendiculaire au plan. Et voici l'effet du passage d'une onde gravitationnelle. Donc, voilà. Tout pendant que l'onde sera encore là, les distances vont se modifier de cette façon pour la polarisation plus. Pour la polarisation moins, il y aura un décalage de 45 degrés, ce qui va donner ceci. Et en fait, une onde gravitationnelle est une combinaison de ces deux polarisations. Alors, nous n'avons pas encore détecté de façon directe des ondes gravitationnelles, mais nous en avons une preuve observationnelle, qui est ce système double d'étoiles à neutrons découvert en 1974 et pour lequel Hulse et Taylor ont eu le prix Nobel en 1993. Donc, je vais montrer un petit film pour bien visualiser. Donc, on a deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre. On voit les déformations de l'espace-temps. L'une de ces deux étoiles à neutrons est un pulsar, c'est-à-dire qu'elle émet un faisceau d'ondes radio que l'on peut voir s'il balaye la Terre, s'il passe dans notre direction. Donc probablement ce pulsar est un pulsar réaccéléré, oui, et celui-là est plus jeune. Ou alors, il n'émet pas de faisceau radio dans notre direction. Et donc ces étoiles se rapprochent, l'orbite se resserre, les étoiles se rapprochent l'une de l'autre par émission d'ondes gravitationnelles. Et ce système devrait. Les étoiles sont bien éloignées l'une de l'autre, et c'est un système qui devrait fusionner dans 300 millions d'années, d'après les calculs. Et le rétrécissement de l'orbite donc, correspond de façon extrêmement précise aux prédictions de la relativité générale. Albert Einstein pensait que ces ondes ne seraient jamais détectées, puisque leur amplitude est si faible. Mais la quête des ondes gravitationnelles a démarré dès les années 60 avec les barres de Weber, de Joe Weber. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, puisque Françoise en a déjà parlé. C'est un peu la même image, ça doit être la seule qu'on ait. Les barres de Weber pesaient environ 1,5 tonnes pour une longueur de 1 mètre. C'est des barres en aluminium. Cette détection utilise une propriété de la barre qui est de vibrer à une certaine fréquence. Et le passage de l'onde gravitationnelle qui passe par là doit rétrécir ou allonger cette barre qui provoque une vibration. Et Weber avait installé un système qu'on appelle un transducteur qui permet de convertir les déformations mécaniques, ces oscillations, en un signal électrique qu'on pouvait détecter. Donc Weber, qui savait que ces barres n'étaient pas assez sensibles pour pouvoir détecter qu'il y avait du bruit qui pouvait être confondu avec un signal gravitationnel, il avait donc disposé plusieurs barres éloignées les unes des autres et cherchait des coïncidences, donc le même signal au même moment sur différentes barres. Et effectivement, il a eu plusieurs détections. Au début, les gens étaient un peu sceptiques et à un moment, plus personne ne l'a suivi parce qu'il y en avait beaucoup trop. Ça faisait complètement exploser toutes les prédictions sur l'énergie gravitationnelle dans l'univers. Il a fallu attendre les années 75 pour que c'est surtout les Italiens qui ont commencé à développer des barres cryogéniques. Cryogéniques, ça veut dire qu'elles sont refroidies à très basse température avec de l'hélium liquide. Le système de refroidissement est extrêmement difficile. C'est une méthode qui est bien maîtrisée au CERN, par exemple. Ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, ce réseau de barres, je pense... Si on va voir sur les sites internet, il n'y a rien de marqué vraiment. Il n'y a pas marqué arrêté, mais je ne connais aucun collègue qui travaille encore sur les barres. Ça ne veut pas dire que c'est complètement terminé. Ils peuvent qu'ils les reprennent. Par contre, il y a des projets pour la détection de sphères. Alors là, le refroidissement est encore beaucoup plus compliqué. Et c'est développé aux Pays-Bas. Il y a un projet aux Pays-Bas. Un autre au Brésil. Les deux travaillent vraiment en commun. De toute façon, il faut plusieurs instruments pour avoir des coïncidences. Les détecteurs les plus prometteurs sont actuellement les interféromètres laser, dont je vais vous parler un peu plus en détail, puisque je travaille sur le projet Virgo-LIGO. Un projet spatial qui utilise aussi l'interférométrie laser. Françoise en a parlé, qui est ELISA, donc avec des bras beaucoup plus grands et dans l'espace, qui est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Les réseaux de pulsars millisecondes, là, c'est parfait. On a déjà des radiotélescopes et on utilise ces pulsars millisecondes, en fait, comme des détecteurs. Et on peut aussi détecter les ondes des premiers instants de l'univers par leur empreinte qu'elles laissent sur le fond diffus cosmologique, donc le mur à 300 000 ans. Donc bien sûr, cette méthode n'est pas sensible aux sources astrophysiques qui sont nées après, mais seulement au fond cosmologique. Je l'ai déjà dit. Donc là, c'était juste pour montrer une image d'une sphère. Donc le cylindre est là, une sphère cryogénique, et isolée. En plus, elle est suspendue, bien sûr. Et ça, c'est une sphère. Ce n'est pas extrêmement grand, hein. C'est de l'ordre du mètre comme diamètre, toujours suspendue. Et donc autant la barre... Le maximum de sensibilité est donné pour une onde gravitationnelle qui va arriver perpendiculaire à la barre. il n'y aura aucune détection pour une onde gravitationnelle qui arrivera dans la direction parallèle à la longueur de la barre. Pour la sphère, c'est différent. En plus d'avoir une fréquence de résonance, il y en a trois, je pense, trois ou cinq. Alors, François vous a déjà montré ce spectre. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour vous dire qu'il y a, il y a beaucoup de projets pour la détection des ondes gravitationnelles, que toutes sont, les projets sont sensibles à différentes longueurs d'onde. Donc, on pourra avoir des objets différents. Et donc, ces projets ne sont pas en concurrence, mais au contraire, sont complémentaires. Je vais vous parler maintenant de l'interférométrie laser, puisque c'est ce qui se c'est les projets, la deuxième génération commence maintenant, et on espère. Jusque-là, on est très dans l'ère des non-détections. La première génération a permis de montrer la faisabilité du projet. Avec cette deuxième génération, on arrive à l'ère des détections. Donc un interféromètre mesure de très petites différences de distance grâce à des miroirs et des lasers. Le principe n'a pas été développé pour la détection des ondes gravitationnelles. Ça a été utilisé avant, par exemple pour l'expérience de Michelson et Morley qui voulait mettre en évidence l'éther et qui finalement a montré que la vitesse de la lumière était constante. Donc, dans le cadre de la détection des ondes gravitationnelles, ce que l'on veut mesurer, c'est une différence de distance qui est due au passage de l'onde gravitationnelle. Dans les années 62, deux chercheurs ont publié un premier article sur le principe de l'interférométrie laser. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces interféromètres de Michelson, puisqu'ils mesurent des différences de distance, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser à la détection des ondes gravitationnelles? En 65, Braginski a publié des travaux sur les sources que l'on pourrait voir avec de tels détecteurs. Et finalement, c'est Rainer Weiss, un chercheur du Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, qui a commencé les premières études expérimentales et qui a montré que le projet était réalisable. C'est lui qui, en 1990, a fondé la collaboration LIGO, les projets américains de détection. En Europe, Alain Briet, à Orsay, au LAL, laboratoire d'accélérateur linéaire, a commencé l'étude de Virgo. Donc l'équipe du LAL travaillait sur des lasers hyperstables et ils se sont associés au laboratoire à Pise qui travaillait sur les pendules. Donc voilà, sur les suspensions. Donc, je vais vous montrer pourquoi c'est important. Pour répéter, isoler les masses. Voilà, donc ça c'est un peu l'historique. Rainer Weiss, qui travaille encore au MIT, qui est toujours dans le projet LIGO et qui a plus de 85 ans maintenant, je crois. Donc, je vais vous montrer avec un petit film le principe très simple de l'interférométrie laser. Voilà, on envoie un laser, ça va prendre du temps, donc le laser là, on l'envoie sur une lame séparatrice qui sépare les signaux dans deux bras perpendiculaires, au bout desquels on a placé deux miroirs. Les deux miroirs renvoient les signaux jusqu'à la lame séparatrice, et si la distance qui a été parcourue, si les bras sont de la même longueur, on va avoir les deux signaux en phase. Voilà. Par contre, que se passe-t-il si une onde gravitationnelle passe? Donc l'onde gravitationnelle, tout pendant qu'elle va passer, elle va modifier, elle va en alternance allonger dans une direction, contracter dans l'autre. Donc dans ce cas, la distance qui va être parcourue va être différente. Et ça, ça va se voir au niveau des interférences. On va avoir un décalage de phase qui va pouvoir être mesuré. Et la mesure de ce décalage va nous donner une mesure de l'amplitude gravitationnelle. Donc comme l'a expliqué Françoise, de façon à amplifier un petit peu le phénomène, les bras sont de l'ordre du kilomètre, donc on va utiliser un système, une cavité de Fabry-Perot, c'est-à-dire qu'on va placer deux miroirs au début et au bout du bras, et que le laser va faire des allers-retours dedans jusqu'à temps que... Voilà. Donc, ça, c'était le principe. Donc, pendant 10 ans, entre 90 et 2000, il y a eu la construction de ces interféromètres. Ça n'a pas toujours été très simple, comme vous pouvez le voir là. Il y a eu des inondations, des tornades, des séismes même. Mais finalement, en 90, alors en 2001, LIGO, le détecteur américain, a commencé en septembre 2001, parce que c'est là que je suis arrivée pour mon postdoc, justement, a commencé à prendre les données, les premières données scientifiques. Alors, voilà le réseau d'interféromètres de la première génération, donc de 2001 à 2012. En 2012, il y a eu un arrêt pour passer à la deuxième génération. Donc, LIGO a deux interféromètres. Pour la première génération, il y en avait en fait trois. Il y avait... Alors, le premier interféromètre est dans l'état de Washington, à Hanford, dans le désert. Donc, il y avait deux interféromètres en fait, qui partageaient les mêmes bras, mais deux lasers, un de 2 km et un de 4 km. Un autre, LIGO a un deuxième détecteur en Louisiane, près de Baton Rouge, à Livingston, toujours de 4 km. Virgo est un projet franco-italien, donc au début uniquement franco-italien. Maintenant, il y a un investissement encore faible, mais un investissement des Pays-Bas. Et il y a des chercheurs hongrois et polonais aussi qui travaillent sur le projet. Donc Virgo est un peu plus petit, 3 km, il est situé à Cascina, près de Pise. Alors Géo, c'est plus petit encore, c'est Géo 600, c'est à Hanovre. Très rapidement, dès 2001, Géo et LIGO ont créé une seule collaboration. LIGO, Géo et Virgo sont maintenant un seul projet. Enfin, chaque collaboration est responsable de son instrument, mais toutes les données sont mises en commun. Et les chercheurs de Virgo travaillent autant sur les données de LIGO que sur celles de Virgo. Virgo a commencé un tout petit peu plus tard, en 2005 en fait. Et en 2007, il y a eu cet accord de collaboration pour un échange des données complet. Tous les articles sont en commun, toutes les données sont communes. Les Japonais avaient développé un prototype de 300 bêtes seulement, qui était en fait pour tester les lasers, les miroirs, dans l'objectif d'avoir un détecteur de deuxième génération. Donc, ce détecteur aurait dû déjà commencer, mais il y a eu une interruption à cause du séisme de Fukushima, là, ce qui s'est passé. Donc, pendant un moment, ça a été interrompu, mais ça va se faire. L'avantage, donc, c'est indispensable d'avoir plusieurs détecteurs pour pouvoir confirmer une détection. On cherche des coïncidences, on cherche à avoir le même signal au même moment dans plusieurs détecteurs. Autre chose, c'est qu'un détecteur interférométrique n'est pas sensible à la direction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme avec un télescope, pointer le télescope dans le ciel et dire « bon, on va observer cette source ». Donc là, on va recevoir des ondes gravitationnelles et on ne sait pas d'où elles viennent. Par contre, ce qu'il y a, c'est que chaque détecteur va recevoir la source avec un petit temps de décalage qui correspond au temps de parcours de la lumière entre les sites. Donc à partir de là, on peut arriver à reconstituer la position. Avec deux détecteurs, on ne peut pas dire qu'on la reconstitue très bien. Avec trois détecteurs, ce ne sera jamais aussi précis qu'un télescope. On a des boîtes, quand on a vraiment une bonne source, qui fera 5 degrés carrés. Souvent, on est dans les 15 degrés carrés. Avec 3 détecteurs, 4 détecteurs, là, bien sûr, ça va devenir de plus en plus précis. Savoir où est la source est important si on veut faire de l'astronomie qu'on appelle maintenant multimessager. On faisait de l'astronomie multilongueur d'onde avec l'infrarouge, l'ultraviolet, etc. Maintenant, ce sont carrément deux messagers différents, les ondes gravitationnelles et les ondes électromagnétiques. Donc, si on détecte une onde gravitationnelle, par exemple une supernova, si on ne sait pas d'où elle vient, on ne va pas forcément pouvoir l'associer à une explosion, à un sursaut gamma. Par contre, si on a la position, et si on arrive à détecter un tout petit peu en avance, là, on pourra même envoyer une alerte au détecteur et leur dire « pointez dans cette direction ». Et avec, si on a des informations dans différents, avec les ondes électromagnétiques et avec les ondes gravitationnelles et peut-être bientôt aussi avec les neutrinos, on pourra en apprendre beaucoup sur les sources. Donc, comme vous voyez, tous ces interféromètres sont à peu près sur le même plan, ce qui est très mauvais pour le positionnement dans le ciel. Donc, voici la deuxième génération. Les détecteurs LIGO ont commencé à prendre des données en septembre. Virgo a un peu de retard. C'est prévu pour l'été 2016, mais c'est possible que ce soit plutôt en automne. Géo n'a pas encore redémarré, je pense. En plus des deux détecteurs LIGO, donc je vous l'ai dit, la première génération, il y avait un détecteur LIGO 2 à Hanford. Il est prévu maintenant d'en avoir un en Inde, donc ce qui permettra de beaucoup mieux localiser la source, puisque le détecteur indien ne sera pas dans le même plan. L'idéal, ce serait d'avoir un détecteur en Australie, c'était prévu, mais il y a des problèmes de financement. Et bientôt, il y aura aussi le détecteur japonais. Donc, j'essaie de convaincre mes collègues qu'il faudra en placer un à Tahiti. Je ne sais pas si... voilà ce que j'ai à dire. Voilà. Ah oui, une question que vous pouvez avoir quand même, c'est pour pouvoir détecter des sources avec une si grande précision, le choix des sites n'est peut-être pas idéal. Pise, on peut penser à la tour. La Louisiane, le détecteur est sur un marécage. En fait, ce n'est pas très grave parce que les mouvements du sol sont à très basse fréquence et donc complètement en dehors de la bande de fréquence où on cherche à détecter nos sources. Donc, je vous rassure, ce n'est pas un problème. Alors, c'est peut-être un peu technique. Je vous l'ai dit, le détecteur n'est pas sensible peut détecter des ondes dans n'importe quelle direction. Par contre, il est quand même plus sensible à certaines directions. Donc ça, c'est la sensibilité pour la polarisation plus, pour la polarisation croix. Ce qui est important, c'est ça pour quand on combine les polarisations. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est seulement que on va être le plus sensible à une source qui est au zénith, c'est là qu'on pourra la voir le plus loin. Par contre, on sera moins sensible, on aura un minimum de sensibilité dans le plan du détecteur. Les traits noirs correspondent au bras du détecteur et on a une sensibilité nulle à 45 degrés des bras du détecteur. Là, on ne voit rien, c'est la zone noire. Mais heureusement, comme on a des détecteurs qui ne sont pas orientés de la même façon, on en a plusieurs, on pourra toujours voir quelque chose. Alors, bien sûr, les longueurs vont bouger à cause du passage d'une onde gravitationnelle et on verra une interférence, une modification d'interférence en sortie. Mais il y a d'autres choses qui peuvent faire bouger ces franges d'interférence. Et ce sont tous les bruits environnementaux ou les bruits du détecteur lui-même. Donc, la sensibilité du détecteur résulte de l'étude de tous ces bruits. Il y en a trois principaux qui vont donner la forme de la sensibilité du détecteur. D'abord, le bruit sismique, donc l'activité sismique de la Terre qui fait bouger les miroirs, donne un mur ici. Alors là, c'est un vieux détecteur, je pense. Donc, on avait un mur à 10 Hz pour l'IGO. Virgo a un système de suspension assez original qui a été développé à Pise, qui s'appelle la marionnette et qui est très performant et qui permet d'aller un peu au-delà, donc avec un mur plutôt à 5 Hz, mais pas net comme ça. Un peu avec cette forme. Les deuxièmes bruits importants sont les bruits thermiques des suspensions qui vont vibrer, très faiblement, mais vibrer, et les bruits de photons qui lui est dû à haute fréquence, à la puissance finie du laser. Donc voici l'évolution de la sensibilité avec, entre la première et la deuxième génération. Donc comme l'a dit Françoise, on va gagner un facteur 10. On va améliorer, la sensibilité va être multipliée par 10. Donc là, c'est la première génération. La deuxième génération, donc là avec le bruit sismique et là le bruit de laser. Advanced Virgo et LIGO. La différence... Donc, à haute fréquence, le bruit de photon peut être réduit parce que là, on augmente, on multiplie par 10 la puissance du laser. Et la masse des miroirs a aussi été augmentée, multipliée par 10, ce qui permet de réduire le bruit brownien. Et il y a une meilleure isolation sismique, ce qui permet de décaler le mur à 40 Hz à 10 Hz. Et toujours avec Virgo qui fait un tout petit peu mieux vers les 5 Hz. Donc, si la sensibilité est améliorée de 10, ça veut dire que la distance maximale à laquelle on va pouvoir avoir une source va être multipliée par 10. Ça veut donc dire que le volume va être multiplié par 100. Et donc, le nombre de sources multiplié par 100. Donc, avec première génération, on pouvait espérer voir jusqu'à la masse de Virgo. Maintenant, on voit jusqu'à des distances de... Enfin, ça dépend des sources, bien sûr. Horizon, ça correspond à la fusion de deux étoiles à neutrons. Donc, c'est la distance maximale à laquelle on peut voir deux étoiles à neutrons. Et horizon, c'est la distance maximale à laquelle on peut voir deux étoiles à neutrons qui sont orientées de façon optimale et positionnées dans le ciel de façon optimale, c'est-à-dire directement au-dessus de nous. Bien sûr, on va pouvoir voir à des distances moindres si on se place dans des directions différentes. Alors, il y a un projet de troisième génération, c'est encore un projet, c'est-à-dire qu'il est à l'étude, il n'est pas financé, un projet européen. Donc, Einstein Télescope aura des bras plus grands, de 10 km. Plus les bras sont grands, plus les puissances sont basses. Par exemple, l'ISA a des bras d'un million de kilomètres et va pouvoir observer à des distances de l'ordre du millihertz. Donc, avec Einstein Télescope, on va pouvoir voir des fréquences un peu plus basses. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? C'est parce que Einstein Télescope sera sous terre, 100 mètres sous terre, et donc affranchi, en tout cas mieux affranchi du bruit sismique. Donc on n'a plus ce mur à 10 Hz et on peut espérer voir à des fréquences plus basses. Einstein Telescope a en fait trois télescopes complètement indépendants, ce qui est différent de LISA. Les lasers sont communs aux trois. Là, on a vraiment 6 lasers, ce qui forme en fait 3 détecteurs indépendants. Et avec 3 détecteurs indépendants, contrairement aux détecteurs qu'on a actuellement, on va pouvoir d'abord, il y a redondance, voir si un signal est détecté dans les 3. On va pouvoir avoir accès à une mesure de la polarisation, ce qui va permettre de tester la relativité générale. On aura une sensibilité sur tout le ciel. Il n'y a plus ces zones sombres à 45 degrés dans le plan du détecteur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que si on fait la somme des signaux en sortie des 3 détecteurs, on annule complètement le signal gravitationnel. Et ça nous donne une mesure du bruit. Parce qu'avec un détecteur gravitationnel, on ne peut pas faire comme avec un... On ne peut pas cacher, on peut pas masquer la source et voir quel est le bruit du détecteur. C'est impossible. Mais avec Einstein Telescope, ça, on va pouvoir le faire. Donc, on aura une mesure du bruit et donc une sensibilité en utilisant certaines méthodes qui utilisent ce signal, cette estimation du bruit, on va pouvoir voir des sources plus basses. Enfin, ce sera en 2025, si tout va bien. On classe les sources gravitationnelles en 4 catégories pour les détecteurs interférométriques. D'abord, les sources impulsionnelles, qui sont des événements très courts, donc une fraction de seconde jusqu'à 1000 secondes. En général, c'est plutôt une seconde. Pourquoi j'ai 1000 secondes, ça me paraît beaucoup. Pour les détecteurs gravitationnels, je pense que c'est sûrement une erreur de ma part, ça doit être 10. Je ne pense pas qu'on regarde avec 1000. Mais... donc voilà, les supernovas, de l'ordre de la milliseconde ou de la seconde, voire 10 secondes pour les événements les plus longs. Donc ces événements sont très courts et très mal modélisés. On ne sait pas quelle forme d'onde. Donc ce qu'on cherche dans le signal, c'est un excès de puissance à un instant donné. Et ça, on doit le faire évidemment en coïncidence avec plusieurs détecteurs. On doit avoir le même excès de puissance sur plusieurs détecteurs au même moment. L'idéal pour ces sources, c'est de voir une coïncidence avec un événement électromagnétique. Par exemple, une supernova ou un sursaut gamma. Donc ça permettrait vraiment d'avoir confiance dans la détection. Bon, après, on a le seuil de... Si on voit, quand je dis un excès de puissance, on a un seuil, un rapport entre le signal et le bruit qui doit être au-dessus de 8. Et ça correspond à une probabilité d'avoir une fausse détection extrêmement faible, moins de 0,1%. Il y a eu les barres de Weber, on est extrêmement prudent. Ensuite, il y a les sources périodiques. Alors, ce sont des signaux faibles, par exemple émis par la rotation d'une étoile à neutrons. Mais comme le signal ne varie pas ou très peu sur de longues périodes de temps, on va pouvoir l'intégrer très longtemps. En fait, c'est un peu comme faire de longs temps de pause quand on fait de la photographie. Donc là, c'est encore une autre méthode de détection. Donc il faut intégrer sur de longues périodes de temps et prendre en compte évidemment, toutes les petites modifications qu'il pourrait y avoir. Un autre signal est le fond gravitationnel stochastique, donc qui est la superposition de toutes les sources qu'on ne peut pas détecter de façon individuelle. Elles peuvent être d'origine astrophysique ou cosmologique. Et là, on peut, comme le fond stochastique peut être confondu avec le fond du détecteur, on doit utiliser un réseau de détecteurs et là, on fait des corrélations entre deux ou plusieurs détecteurs. Et on classe à part les coalescences de binaires qui sont très bien modélisées. Je vais vous en parler un petit peu plus maintenant, plus en détail des méthodes de détection pour chaque catégorie de sources. Donc voilà, les sources périodiques, ça, dans la bande de fréquence des détecteurs terrestres, c'est typiquement une étoile à neutrons qui tourne. Alors, les étoiles à neutrons peuvent émettre des ondes gravitationnelles à différents stades de leur évolution. Alors, soit parce qu'elles oscillent, et là ce sont des bursts, soit parce qu'elles tournent. Donc là, je m'intéresse à la rotation. Pour que l'étoile émette des ondes gravitationnelles, il faut une dissymétrie. L'étoile doit être triaxiale. Donc, on peut obtenir cette dissymétrie soit par une dissymétrie initiale, si le collapse n'est pas symétrique, il se peut que ça reste au niveau de l'étoile à neutrons jeunes, des irrégularités de la croûte, par exemple des petites montagnes, toutes petites, hein, mais des petites montagnes, ça permet d'émettre des ondes gravitationnelles. Et aussi, alors, je crois que j'ai une... Je vous montrerai tout à l'heure. Ou alors une accrétion de matière. Donc l'amplitude de l'onde gravitationnelle dépend essentiellement de sa fréquence de rotation. Donc la fréquence gravitationnelle est deux fois la fréquence de rotation, de sa distance, bien sûr, et de ce paramètre qu'on appelle l'ellipticité et qui mesure la déformation de l'étoile, c'est la déformation équatoriale. Donc, pour résumer, la source idéale doit tourner vite, être proche et être très déformée. Donc là, je vais aller assez vite parce que Françoise en a déjà bien parlé. Les pulsars que l'on observe peuvent être catégorisés en plusieurs catégories. Il y a les pulsars qu'on appelle normaux, qui tournent autour d'une seconde, ceux qu'on observe. Donc voilà, on les observe si le phare passe dans notre direction. Bien sûr, on en rate énormément à cause du fait qu'on a une faible chance pour que le phare passe en direction de la Terre. Une seconde, c'est un peu trop, c'est une vitesse, c'est une période un peu trop élevée pour être détectée avec les détecteurs actuels, mais les pulsars sont freinés, donc on s'attend à ce que la période pour les pulsars jeunes, elle, soit plus jeune, soit plus rapide, et donc les pulsars jeunes, normaux mais jeunes, pourraient être détectés. Donc ce sont des sources que l'on cherche. Il y a aussi les pulsars millisecondes. Donc voilà, si un pulsar naît dans un système binaire, l'étoile la plus massive va évoluer plus vite. Donc elle va exploser d'abord en supernova, former une étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons va émettre un faisceau d'ondes radio qu'on verra ou pas. Quand la deuxième étoile atteint son stade de géante rouge, il va y avoir un transfert de matière et donc une réaccélération du premier pulsar qui va donc atteindre des périodes de l'ordre de la milliseconde. Donc milliseconde, c'est rapide. A priori, ça devrait être plus facile à détecter. Le problème, c'est que ces pulsars sont extrêmement stables. Donc, a priori, ils ne perdent pas beaucoup d'énergie. Donc, pas non plus beaucoup d'énergie gravitationnelle. Complètement à l'opposé, on a ce qu'on appelle les magnétars. Donc là, ce sont des étoiles à neutrons avec un champ magnétique extrêmement élevé. Et ce champ magnétique extrêmement élevé peut déformer l'étoile de façon considérable. Donc, plus déformé... C'est quelque chose d'intéressant pour les ondes gravitationnelles. Le problème, c'est qu'ils ont un champ magnétique très élevé, donc ils sont freinés très vite. Et donc, ils sortent très vite de notre bande de fréquence. Donc, il faudrait les voir vraiment au tout début, ceux-là. mais ils pourraient émettre beaucoup plus d'ondes gravitationnelles que les autres. Voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais... Alors, les sources que l'on s'attend à détecter en premier, les premières détections, seront des coalescences de binaires, donc des fusions de deux étoiles à neutrons, une étoile à neutrons et un trou noir, ou deux trous noirs. Alors, j'ai des collègues qui sifflent ça très bien. Françoise l'a très bien chanté, je ne vais pas m'y risquer. Donc, j'ai fait un petit enregistrement. Voilà ce que l'on entend. Ce qu'on appelle le chirp. Ah oui, mais s'il n'y a pas le son. Voilà. C'est raté. Je remets. Hein. Bon, tant pis. Voilà. Donc on a trois phases. La phase spirale, quand les étoiles sont bien éloignées les unes l'une de l'autre. La phase du merger, quand elle commence à fusionner. Donc ici, on peut très bien. Le signal est très bien modélisé dans les approximations post-newtoniennes. Au niveau du merger, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il n'y a que les simulations numériques qui peuvent nous le dire. Et la phase du Rigdon, c'est-à-dire quand on a la formation du trou noir final et qui se met à osciller. Là aussi, on peut très bien modéliser ça avec les approximations post-newtoniennes. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré ce film pour le pulsar de Hulse-Taylor que l'on avait observé avec les ondes radio. Et voilà ce qui se passe, ce qu'on attend, que l'on va détecter avec les détecteurs laser, c'est-à-dire la phase finale. Donc là, évidemment, il y a beaucoup plus d'énergie qui est émise et l'espace-temps est beaucoup plus déformé. Donc là, on a encore... voilà, les étoiles ont déjà passé l'orbite stable. Là, on entre dans la fusion et on va avoir une relaxation du trou noir final avec une fréquence unique qui est le Rigdon. Voilà. Donc, J'ai mis cette catégorie de sources à part parce qu'on a, comme elles sont très bien modélisées, on a une méthode de détection différente des bursts qui est celle du filtre adapté. Ça veut dire qu'on a des modèles de formes d'ondes. Ça va dépendre de la masse des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Ça va dépendre du spin, de leur vitesse de rotation, de l'excentricité aussi. Et donc, on a tout un catalogue de sources, de formes d'ondes que l'on va confronter aux données. Alors, voilà ce qu'on fait. Donc, en noir, enfin, c'est très simplifié. En noir, vous avez les données. Donc là, on ne voit pas a priori... s'il y a une source ou pas. Et donc, on fait passer les différents patrons. Donc ça prend, c'est la méthode qui prend le plus de temps. On fait passer les différents patrons à tous les moments. Et j'ai des problèmes avec les films. Ah, voilà, je vois mieux sur l'écran. En fait. Voilà ce qui se passe avec cette méthode. On fait passer, là, il n'y a rien, toujours rien. Regardez en bas. Toujours rien. Et là, voilà. Là, on a trouvé quelque chose. Donc, évidemment, comme ça, on ne peut pas dire s'il y a un signal gravitationnel. C'est impossible, à l'œil. Par contre, là, voilà, avec ces méthodes, on peut. Donc, bien sûr, ça ne suffit pas. Alors, on peut voir quelque chose. On a un seuil de détection. Il faut que ce soit à 8. Et ce seuil de 8, c'est un rapport signal à bruit de 8, ça nous donne une très faible probabilité d'avoir une fausse alarme, tout en gardant quand même une faible probabilité de rater toutes les détections. Parce que, évidemment, si on ne veut pas avoir de fausses alarmes, on met un niveau très très élevé, mais là, on ne voit plus rien. Donc, c'est un très bon compromis avec vraiment. C'est-à-dire que. Il faut attendre. je ne sais pas exactement avec 8, avec 25, il faut attendre 1000 ans pour avoir ce genre de bruit. Alors, malgré tout, on est. Alors là, on retient, quand ceci arrive, on est au-dessus du seuil, si on voit ça dans au moins 2 détecteurs, pas un seul, ça ne suffit pas. Si on voit ça dans au moins 2 détecteurs, on le garde comme candidat. On ne dira pas que c'est une détection, on le garde comme candidat. Et après, bien sûr, il y a énormément de tests, ça peut durer des semaines, des mois, avant que le candidat soit éliminé ou gardé. On vérifie tous les bruits, on peut voir d'abord si l'instrument, si le bruit du détecteur est stable pendant cette période. Il faut aussi vérifier tous les bruits instrumentaux. Il faut vérifier que personne, la CIA par exemple, soit entrée dans les données pour injecter un faux signal. Je pense que si la CIA voulait le faire, elle y arriverait, mais je ne pense pas qu'elle s'y amuse. Donc, on vérifie quand même que personne, en tout cas dans la collaboration, n'aurait pu faire ça. Pour injecter un faux signal, il faut quand même être spécialiste et il faut un groupe d'au moins 5 personnes sur 2 sites pour arriver à faire ça. Donc, ce serait vraiment quelque chose qu'on peut exclure a priori. Alors, le cas idéal pour confirmer une détection, c'est d'avoir une coïncidence avec un sursaut gamma ou autre chose. Donc, quand on a ce genre de choses, on envoie une alerte au réseau de satellites gamma. Pour l'instant, on n'est pas avec seulement LIGO en opération, on n'est pas tellement capable de leur dire où chercher. Mais dans les années à venir, ce sera certainement le scénario. Parce que comme on a la phase spirale, on peut voir l'alerte un peu avant le sursaut gamma qui, lui, va vraiment se produire au moment de la formation du trou noir. Alors, si j'ai encore un tout petit peu de temps, je voulais vous faire écouter ces simulations. Donc, à gauche, on a uniquement du signal gravitationnel. Et donc, vous voyez, ce sont que des sources binaires et qui se superposent, en fait. Même avec seulement des sources, ce n'est pas évident à détecter. Et là, c'est en appliquant le filtre, un filtre qui permet justement de les voir bien. Donc, voilà ce qu'on entend. Alors là, par contre, voilà, on a du bruit plus le signal. Et là, c'est en appliquant le filtre. Donc, voilà ce qu'on a entendu pendant 10 ans. Ah non, pardon, là il y a déjà une détection. Ouais. Ben là c'est ce qu'on entend actuellement avec les détecteurs alors. Et là par contre, après avoir appliqué le filtre, on arrive à vraiment augmenter la confiance qu'on a dans ce signal. On l'entend beaucoup mieux et il faut avoir ça dans au moins 2 détecteurs. Et une fois qu'on a ça, on vérifie tout le reste. Donc c'est un signal quand même très particulier qui peut être, bien sûr, on ne peut pas exclure qu'un bruit puisse donner ça, mais en plus du fait qu'on aura des détections en coïncidence dans plusieurs détecteurs, il y a quand même cette forme particulière du signal. Alors, quel est le potentiel scientifique de ces détections de trous noirs ou de connaissances de trous noirs ou de binaires? D'abord, bien sûr, c'est tester la relativité générale en champ fort. Jusque-là, on a pu la tester qu'en champ faible. C'est avoir accès à l'intérieur des étoiles à neutrons ou des trous noirs. En particulier, on ne sait pas ce qu'il y a dans les étoiles à neutrons. On appelle ça étoiles à neutrons, mais il y a en grande partie probablement des étoiles à neutrons. Il y a d'autres choses, et il y a aussi certaines étoiles qui peuvent être des étoiles de quark, c'est-à-dire que des neutrons déconfinés. Les sursauts gamma, on pense que c'est dû à des coalescences de systèmes doubles, les sursauts gamma courts, mais en fait, on n'en a pas la certitude. Donc, ça permettra de résoudre, si on les détecte en coïncidence, de résoudre les mystères des sursauts gamma. Déterminer aussi la distribution de masse des étoiles à neutrons On sait que c'est théoriquement autour de 1,5, 1,4. On peut aller jusqu'à 3. Donc on saura beaucoup mieux avec les ondes gravitationnelles, nous donneront une mesure de cette masse. Tracer l'histoire de l'univers aussi, parce qu'on pourra voir des. Là pour l'instant, avec la deuxième génération, on voit à des distances de. Pour des trous noirs, on peut aller quand même jusqu'à des redshifts de 1,5. Avec Einstein Télescope, on verra des sources à des distances cosmologiques, des sources, des coalescences d'étoiles à neutrons jusqu'à des redshifts de 4. Donc on permettra aussi de les utiliser comme on utilise les supernovas comme chandelle standard. Alors, il y a beaucoup de méthodes pour contraindre les paramètres de l'énergie noire. Les ondes gravitationnelles seront une méthode complètement indépendante, puisqu'on a accès directement à une mesure de la distance. On n'est pas obligé de calibrer avec des sources proches, comme on le fait avec les supernovas. J'ai parlé de ça avant. Tracer l'histoire de l'univers, oui, parce qu'on pourra avoir des sources à grand redshift, donc on pourra voir l'évolution de la distribution de masse, et donc suivre, qui nous donnera une indication sur l'évolution de la métallicité. Voilà. Normalement, j'ai déjà fini. Donc je voulais juste parler, mais là j'ai passé trop de temps là-dessus. Le fond stochastique, bien sûr, est aussi très intéressant, puisque avec les ondes gravitationnelles, on pourra voir les premiers instants de l'univers. On a aussi une contribution astrophysique qui sera dominée par toutes les binaires que l'on ne peut pas voir individuellement. Et la détection de ce fond stochastique, qu'on espère aussi voir avec la deuxième génération, sera complémentaire des détections individuelles, puisqu'elle nous donnera accès justement à ces grands redshifts. Voilà. Donc, pour terminer, je vais vous montrer ce tableau de Dufy que j'aime beaucoup. C'est une vue de Nice. Par une fenêtre, on voit la mer, par l'autre, on voit la ville, et c'est uniquement avec les deux fenêtres que l'on peut savoir que c'est Nice. Et c'est ce qui va se passer maintenant avec l'astronomie multimessager.